circonstance, puisqu'il s'agit du récit de l'annonce de la naissance de Jésus à Marie par l'ange Gabriel. Un texte bien connu, et nous allons essayer d'en retirer quelques enseignements, quelques exhortations, quelques encouragements pour nous ce matin. Pendant toute la période de l'Ancien Testament, Dieu a souvent parlé de diverses manières et à plusieurs reprises, jusqu'au prophète Malachie, et puis, à partir du prophète Malachie, c'est le silence. Un silence qui va durer près de 400 ans, 400 ans pendant lesquels Dieu ne parle plus. 4 siècles sans révélation de la part de Dieu. Et le début du Nouveau Testament coïncide avec la reprise de la révélation divine. Dieu parle à nouveau par différents moyens. Bientôt, il va parler par la bouche de Jean-Baptiste. Ensuite, il parlera par la bouche de son fils, Jésus. Mais c'est tout d'abord par la bouche de l'ange Gabriel que Dieu va rompre ce long silence de près de 4 siècles. Gabriel qui apparaît une première fois au sacrificateur Zacharie alors qu'il est en train d'exercer ses fonctions dans le temple, il lui apparaît pour lui annoncer que sa femme Élisabeth, pourtant âgée, pourtant stérile, enfantera un fils qui sera le précurseur du Messie. Plusieurs mois vont passer et c'est ce même ange Gabriel qui apparaît à nouveau, cette fois-ci à Marie, pour lui annoncer la naissance de Jésus. Et c'est donc ce texte que je vous invite à soit suivre dans vos Bibles, soit à lire. Il est là en une diapo, donc ça fait beaucoup, mais il n'y aura pas de deuxième diapo. Tout le texte est là. Luc chapitre 1, les versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très touchée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Ce texte très connu de l'Évangile selon Luc nous raconte donc comment la naissance de Jésus a été annoncée à Marie. Il raconte aussi comment et pourquoi Marie s'est retrouvée enceinte avant son mariage. Et j'aimerais faire ressortir 4 points tout simples de ce texte. Dès que la technique se mettra au diapason, ça va revenir. 4 points pour qualifier cette naissance de Jésus. C'est une naissance annoncée, ça reviendra peut-être. Une naissance annoncée, une naissance miraculeuse, une naissance divine et une naissance acceptée. Une naissance annoncée, annoncée par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui n'apparaît en tout et pour tout que trois autres fois dans les Écritures. Deux fois dans le prophète Daniel et une fois dans ce même chapitre de Luc, dans les versets qui précèdent ce que nous avons lu, il apparaît pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Le texte que nous venons de lire nous précise que la visite de l'ange à Marie, de l'ange Gabriel à Marie, a lieu au sixième mois, dit le texte. Et nous devons bien évidemment comprendre le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, la cousine de Marie, la future mère de Jean-Baptiste. Alors que l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste s'est faite à Jérusalem, dans le temple, l'annonce de la naissance de Jésus se fait dans l'humilité, dans l'intimité de la petite maison de Marie à Nazareth. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu annonce la venue de son Fils à Jérusalem, dans le temple, et que l'annonce se fasse au moins comme pour Jean-Baptiste. Mais il n'en est rien. C'est dans l'humilité que Jésus est venu sur terre, nous le savons, et nous le constatons déjà dans l'annonce qui est faite de sa naissance. Marie est fiancée à Joseph, nous dit le texte. Dans un an, au plus tard, ils seront mariés. Les fiançailles à cette époque duraient un an. Et les fiançailles à cette époque étaient bien plus engageantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Elles duraient donc un an et elles ne pouvaient être rompues que de deux manières, soit par la mort d'un des deux fiancés, soit par une lettre de divorce qui permettait alors à l'un des deux partis de rompre les fiançailles. Lettre de divorce parce que les fiancés étaient juridiquement mariés, même s'ils n'avaient pas encore de vie commune. Marie et Joseph sont fiancés, et Marie est sans doute jeune, même très jeune. On sait par divers textes qu'on pouvait se fiancer pour les filles dès l'âge de 12 ans, mais que la pratique était plutôt autour de l'âge de 15 ans. Et donc, vraisemblablement, on ne peut pas savoir quel âge avait Marie à ce moment-là, mais elle a vraisemblablement moins de 18 ans au moment où l'ange Gabriel lui apparaît. Le texte biblique ajoute une précision qui a son importance, toute son importance. Il est précisé que Marie était vierge. Elle n'avait jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Et nous verrons au deuxième point en particulier toute l'importance de ce détail. La naissance annoncée à Marie commence par les paroles, par des paroles de salutation de l'ange qui vont laisser Marie troublée, perplexe. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. C'est à peu près ainsi qu'on peut traduire littéralement. Le Seigneur est avec toi. Que signifient ces paroles? Vous savez certainement que le culte à Marie, qui est pratiqué dans une grande partie du christianisme, se base essentiellement, en tout cas en grande partie, sur une certaine compréhension de ce verset. Dans la tradition catholique, Marie n'est pas seulement celle à qui une grâce a été faite, mais elle est aussi celle qui est pleine de grâce. D'ailleurs, les paroles de l'Ave Marie le disent ainsi, « Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » En d'autres mots, Marie posséderait en elle la grâce de Dieu, une grâce qu'elle serait en mesure de communiquer à d'autres, en particulier à ceux qui l'a pris. Et c'est ainsi que des millions de gens, chaque jour, prient, récitent cette prière de l'Ave Marie, pensant recevoir de Marie une grâce. Ce n'est pourtant pas ce que dit notre texte. Notre texte ne fait qu'affirmer qu'une grâce particulière a été faite à Marie. La grâce qui est aussi la vocation d'être parmi toutes les femmes de la terre, la mère du Sauveur. Marie n'est pas une fontaine de grâce. Elle n'est pas pleine de grâce. Marie, comme toutes les autres femmes et comme tous les hommes, a besoin de la grâce de Dieu. Elle a aussi besoin de recevoir la grâce de Dieu. Alors bien sûr, en tant que mère de Jésus, Marie mérite un honneur particulier, elle mérite notre respect, mais seul Dieu, seul Jésus mérite notre adoration. Seul Dieu, par Jésus, est source de la grâce pour nous, pour les hommes. Alors oui, Marie a trouvé grâce auprès de Dieu. Elle sera la mère du Fils de Dieu, la mère du Fils du Très-Haut, dit le texte. C'est cela que l'ange va annoncer à Marie. Je pense que je vais juste remettre le texte, c'est peut-être plus simple pour pouvoir suivre. Une naissance annoncée donc, et puis nous arrivons au deuxième point, une naissance miraculeuse. La naissance de Jésus est une naissance miraculeuse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne se sont pas passées, ne se passeront pas comme d'habitude. Dieu va faire un miracle. L'enfant qui va naître d'une vierge. Les choses ne se passent pas comme elles se passent d'habitude. Nous lisons au verset 26 et 27, et puis un peu plus loin, au verset 31 et 34, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, première fois, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge, deuxième mention, était Marie. Un peu plus loin, verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? Troisième mention. À trois reprises dans ce texte, la virginité de Marie est soulignée, est mise en avant. Et certainement que nous devons comprendre par là, par cette insistance sur ce détail, que ce détail est tout à fait important. Soulignons tout d'abord que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a annoncé ce miracle. Annoncé ce miracle de la naissance virginale par la bouche du prophète Ésaïe. Et cela quelques 700 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » 700 ans auparavant. La naissance de Jésus sera miraculeuse parce que Marie sera enceinte sans avoir eu de relation sexuelle avec un homme. C'est là tout le sens de la naissance virginale de Jésus. Marie d'ailleurs ne s'y trompe pas. Nous avons lu au verset 34 sa perplexité devant cette annonce. Marie qui dit « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Le verbe « connaître » ici, c'est connaître dans ce sens biblique d'avoir des relations intimes avec quelqu'un. Marie affirme ici, au travers de cette perplexité, sa virginité. Comment pourrait-elle tomber enceinte puisqu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec un homme? Alors il nous faut bien distinguer ici deux choses. Il faut distinguer d'une part les faits et d'autre part leur sens. Les faits, tout d'abord, nous l'avons dit, ils sont miraculeux et ils ne sont rien d'autre que miraculeux. C'est un miracle que le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, s'incarne et prenne notre humanité. C'est un miracle. Il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. C'est un miracle que la conception de Jésus se soit faite sans l'intervention d'un père humain. C'est un miracle que la naissance virginale de Jésus. C'est un miracle et un mystère, pour rejoindre un mot utilisé par Sigère dans la première partie, un mystère qu'il ne nous est pas possible d'expliquer, que nous acceptons par la foi parce que Dieu nous l'a révélé. Mais cela dépasse notre raison et cela demande à notre foi de nous en saisir et de l'accepter parce que nous croyons que le texte biblique est parole de Dieu. Alors voilà pour les faits. Passons au sens. Qu'en est-il du sens de la naissance virginale de Jésus? Pourquoi cette naissance virginale? Est-ce que les choses n'auraient pas pu se passer d'une autre manière? Pourquoi cette insistance? Pour nous faire comprendre quoi? Qu'est-ce que tout cela signifie? Deux choses. D'un point de vue humain, la naissance virginale de Jésus signifie avant tout que le Père de Jésus n'est pas un homme. Le Père de Jésus n'est pas un homme. Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Jésus n'a pas de père humain, pour dire les choses autrement. Il ne sera que juridiquement le fils de Joseph. Mais il sera, nous dit notre texte, appelé fils du Très-Haut et un peu plus loin, fils de Dieu. D'un point de vue humain, donc. Maintenant, d'un point de vue théologique. D'un point de vue théologique, la naissance virginale de Jésus signifie tout autre chose. Elle signifie que la transmission héréditaire du péché d'Adam n'a pas été communiquée à Jésus. La transmission héréditaire du péché d'Adam que nous transmettons, que l'humanité transmet de génération en génération depuis Adam et Ève, n'a pas été transmise à Jésus. Jésus est venu remplir avec succès la mission dans laquelle le premier Adam a échoué. Et je fais ici référence à ce texte d'1 Corinthiens 15 où Jésus est appelé le deuxième Adam, le chef de file d'une nouvelle humanité. Lui va réussir là où le premier Adam a échoué. Il va résister à la tentation. Il va passer le test, entre guillemets, que n'a pas passé Adam. Et comme Adam a légué à l'humanité dont il était le chef de file une hérédité de péché, Jésus va pouvoir léguer à la nouvelle humanité dont il est le chef de file une hérédité de justice. Et il devient ainsi le premier-né d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité qui peut être débarrassée du péché parce que son chef de file a remporté cette victoire-là. Le chef d'une nouvelle humanité qui est maintenant non pas caractérisé par le péché, mais caractérisé par la justice. La justice de Christ, la justice d'une vie exempte de péché. Si Jésus était né d'un père humain, et s'il était né d'une mère humaine, comme chacun de nous ici, alors il serait tombé sous la condamnation du péché d'Adam. Mais il fallait qu'il puisse briser ce cycle-là. Et il l'a fait par cette naissance virginale. Jésus n'aurait pas pu briser ce cycle-là s'il avait eu lui-même besoin d'un sauveur. S'il avait été lui-même sous la condamnation du péché d'Adam, il aurait eu besoin d'un sauveur. Il n'aurait pas pu être cet agneau sans tache. Il fallait que le cycle soit brisé. Et c'est là que la naissance virginale prend tout son sens d'un point de vue théologique. Je le répète, Jésus n'a pas hérité du péché d'Adam. L'hérédité de la condamnation n'est pas passée pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il va pouvoir se substituer à nous et prendre notre condamnation, non pas la sienne, notre condamnation, et nous en délivrer. C'est donc à la lumière de la rédemption, du salut, du rachat, de la rédemption, que la naissance virginale de Jésus prend toute sa dimension. Ce n'est pas juste quelque chose du folklore de Noël, c'est quelque chose de fondamental, cette naissance virginale. Il fallait pour nous sauver que Jésus demeure pleinement Dieu, et il fallait qu'il soit aussi pleinement homme pour pouvoir nous représenter, se substituer à nous, en prenant sur la croix notre châtiment. Mais il fallait pour cela qu'il soit sans péché. Il fallait qu'il soit l'agneau de Dieu sans tache, sans défaut, pour pouvoir ôter le péché du monde. Il fallait que Jésus se revête de notre humanité, sans revêtir notre condamnation, condamnation que nous avons tous héritée de nos parents. Il fallait pour cela la naissance virginale. C'était la condition sans laquelle Jésus n'aurait pu accomplir tout ce qu'il a accompli pour nous. Seule la naissance virginale était appropriée donc pour le Fils de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, tout en restant dans sa perfection. Là aussi, c'est un mystère qui demande que nous saisissions cela par la foi, mais c'est ce que nous trouvons dans l'Écriture. Et ça nous amène maintenant à notre troisième point, une naissance annoncée, une naissance miraculeuse, et puis une naissance divine. Si la naissance de Jésus sera peu ordinaire, puisque Marie est vierge, elle le sera en particulier parce que l'enfant à naître, si je lis bien le texte, est divin. L'enfant à naître est divin. Et notre texte le souligne de plusieurs manières. Et il est important que nous nous arrêtions un instant sur ces manières du texte de souligner cela. Premièrement, par les noms divins qui sont attribués à Jésus. Versets 31 et 32, « Tu viendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Bon, jusqu'ici, pas grand-chose. « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Fils du Très-Haut. Et puis, à la fin du verset 35, « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Jésus sera appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Vous savez que dans la pensée hébraïque, le fils, c'est bien plus que le descendant, que seulement le descendant. Le fils, c'est celui qui est de la même nature que le père. Et donc notre texte, en affirmant que Jésus est le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, affirme que Jésus est d'essence divine, qu'il est de la même nature que Dieu. Voilà ce que dit le texte au travers de ces deux affirmations. Il affirme que Jésus est Dieu. Et on peut noter au passage que cette subtilité, comme certains pourraient le penser, n'a pas échappé aux autorités juives de l'époque. Les autorités juives de l'époque ont très bien compris qu'en étant appelé le Fils de Dieu, Jésus se déclarait Dieu. Je vous donne deux exemples. Les deux sont dans l'évangile de Jean. Chapitre 5, tout d'abord, je lis « Mais Jésus leur répondit, Il fait face aux autorités religieuses de l'époque, les scribes, les pharisiens. « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, dit Jésus. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, ce qui était à leurs yeux déjà suffisant, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu, de même nature, d'essence divine. Appeler Dieu son Père, c'était se faire l'équivalent de Dieu. Et un peu plus loin dans le chapitre 10 de ce même évangile de Jean, je lis, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, ça c'est Jésus qui parle un peu plus loin, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Tu blasphèmes parce que tu as dit, je suis le Fils de Dieu. » En annonçant l'enfant à naître comme le Fils de Dieu, notre texte annonce la venue de Dieu lui-même sur terre. C'est toute la signification du nom Emmanuel, nous le savons. Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Dieu qui vient nous rejoindre. Notons encore que le terme qui est utilisé ici en grec pour le Très-Haut vient d'une expression qu'on a dans un ou l'autre chant qu'on chante parfois, l'expression hébreu El Elyon, qui veut dire le Dieu Très-Haut. Et quand cette désignation de Dieu est utilisée dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse et dans le livre des Psaumes, elle désigne Dieu comme étant élevé au-dessus de tout, et en particulier au-dessus de toutes les divinités païennes. Seul Dieu est élevé au-dessus de tout. Et le Fils du Très-Haut est donc le Fils de celui qui est élevé au-dessus de tout. Le Fils du Très-Haut n'est qu'un synonyme du Fils de Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous avons les deux expressions dans notre texte. Ça, c'est la première dimension de la divinité de Jésus dans le texte. La deuxième dimension de cette divinité, c'est la mention d'un règne éternel. Versets 32 et 33, « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Les règnes humains ont toujours une fin, n'est-ce pas ? Le règne de ce roi-là n'aura pas de fin. Seul le règne de Dieu peut être un règne éternel. Et en affirmant que le règne de l'enfant à naître sera un règne éternel, l'ange affirme que l'enfant à naître est Dieu, est divin. Et il y a ici, je ne vais pas m'étendre dessus, mais de nombreux parallèles à faire entre ce qui est dit ici et une annonce qui avait été faite à David dans le deuxième livre de Samuel. J'aimerais quand même lire quelques-uns de ces versets de Samuel 7, chapitres 12 à 16, parce que les correspondances sont importantes. Et nous avons ici dans notre texte l'accomplissement de cette promesse faite à David et à sa descendance. Je lis donc de Samuel 7, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Ça, c'est ce que Dieu promet à David pour sa descendance. « J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Il y a au moins trois liens ici entre ces promesses faites à David et notre texte. Il est parlé de David, son père, dans 2 Samuel, et il est dit que le futur roi, dans notre texte, sortira des entrailles de David. Dans notre texte, Jésus est appelé fils de Dieu. Dans le texte de 2 Samuel, Dieu dit de ce roi, je serai pour lui un père. Et puis enfin, troisième correspondance, je vais très vite, hein, il est dit que le royaume de Jésus ici dans notre texte n'aura pas de fin. Et dans le texte de Samuel, il est dit que le trône du royaume messianique sera pour toujours affermi. Jésus est clairement ce roi messie promis à David et puis promis ensuite, promesse renouvelée dans les prophètes. Un roi messie divin promis à la descendance de David, un roi dont le règne est éternel, comme seul le règne de Dieu peut l'être. C'est le deuxième indice de la divinité de Jésus. Et puis, le troisième indice, et pas des moindres, c'est la conception par le Saint-Esprit de cet enfant à naître. La conception par le Saint-Esprit signifie que cette conception de Jésus dans le sein de Marie est un acte de Dieu. C'est Dieu qui l'opère, c'est Dieu qui agit. Marie est devenue enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et on peut souligner ici la pudeur du texte. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il n'est absolument pas question de relation sexuelle entre Dieu et Marie. De ce point de vue-là, la naissance virginale est unique au christianisme et elle n'a rien à voir avec tout ce qu'on trouve dans les nombreuses mythologies humaines, païennes, où l'on voit très régulièrement des dieux qui s'accouplent avec des humains. Ce n'est pas de cela dont il s'agit ici. Ce que le texte veut nous faire comprendre, c'est que Dieu va agir en Marie par son esprit pour qu'elle porte Jésus, pour qu'elle porte en elle le Fils de Dieu. Et on peut simplement souligner ici que l'expression très pudique qui est utilisée dans le texte, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, c'est la même expression que l'on retrouve dans le livre de l'Exode, où il est question de la présence mystérieuse de Dieu dans le sanctuaire, comme cette nuée qui recouvrait le sanctuaire. Dieu, par son Esprit, va agir en Marie pour qu'elle porte en elle le Fils éternel de Dieu. C'est clairement une naissance divine qui est annoncée dans notre texte. L'action du Saint-Esprit souligne qu'il s'agit bien d'un acte de Dieu, mais aussi et surtout que Dieu est le Père de Jésus. Le Père dans ce sens de la même nature. Et le texte souligne ce lien de cause à effet. C'est parce que la conception est du Saint-Esprit que l'enfant sera appelé fils de Dieu. C'est bien ce qui est dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant à naître, qui naîtra, sera appelé fils de Dieu. C'est parce qu'il y a conception par le Saint-Esprit que l'enfant à naître sera appelé fils de Dieu. L'ange ne laisse donc planer aucun doute sur la nature de l'enfant à naître. Cet enfant sera divin, cette naissance sera divine. J'arrive à mon dernier point, une naissance acceptée. Quelle est la réaction de Marie? Elle mérite que nous nous arrêtions pour terminer sur ce quatrième et dernier point. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Notons que cette réaction de Marie est bien différente de la réaction de Zacharie, quelques versets auparavant. Zacharie, qui, souvenez-vous, est devenu muet, et il ne va plus pouvoir parler jusqu'à la naissance de l'enfant, parce qu'il n'a pas cru aux paroles de l'ange Gabriel lui annonçant la grossesse de son épouse âgée. Alors, c'est vrai qu'à vue humaine, c'était difficile à croire. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie a douté, on ne lui jette pas la pierre, hein, mais c'est, on constate, il a douté, Marie a cru. Marie a cru, mais elle est tout d'abord perplexe, ce qui paraît quand même assez normal. Perplexe à l'annonce de cette naissance virginale, mais elle croit néanmoins la parole, les paroles de l'ange. Et elle dit donc, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle ne l'a pas demandé, mais l'ange lui donne un signe. « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. » L'ange lui donne un signe, mais Marie n'a pas besoin de signe. Elle n'a pas besoin de confirmation. Elle n'a pas besoin d'aller vérifier que sa cousine est bel et bien enceinte. Sa réponse est claire et nette. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Une réponse d'une grande simplicité et en même temps d'une grande profondeur. Marie s'offre à Dieu comme sa servante. Littéralement dans le texte comme son esclave. Marie se met à l'entière disposition du Seigneur. Marie accepte que cette parole qui la rend, qui la laisse perplexe au premier abord, s'accomplisse en elle, qu'il lui soit fait selon la parole de l'ange. Mais Marie aurait pu refuser, vous ne pensez pas ? Moi je pense que oui. Je pense que Marie aurait pu dire non, parce que je pense que Dieu ne force personne à le servir. Marie aurait pu dire non, mais elle a dit oui. Et ce que nous devons bien comprendre ici, c'est que nous sommes en présence d'un acte d'héroïsme pur. Un acte d'héroïsme pur. N'oublions pas que Marie n'est pas mariée. N'oublions pas qu'elle ne vit pas dans le 21e siècle où les grossesses hors mariage existent et sont acceptées par la très grande majorité des êtres humains aujourd'hui. Accepter les paroles de l'ange, c'était accepter la disgrâce, c'était accepter la honte, c'était accepter la mauvaise réputation qui allait être jetée sur elle et peut-être même la mort. Alors oui, la chose n'était plus très pratiquée à l'époque de Jésus, mais on le voit quand même, quand on amène la femme adultère à Jésus, que la lapidation existait encore. Et il arrivait que l'infidélité soit punie de cette mort horrible. Mais Marie est prête à ce que la parole de l'ange s'accomplisse en elle. Elle est prête à tout pour le Dieu qu'elle aime. C'est vrai de Marie, et notons-le, c'est vrai de Joseph aussi. Pour lui aussi, accepter la grossesse de Marie, c'est un acte d'héroïsme pur. Parce que lui aussi va devoir faire face à la disgrâce, à la honte, pardon, et à la mauvaise réputation. Je m'emporte. Marie a donc reconnu la volonté de Dieu et elle l'accepte en toute simplicité. La naissance de Jésus, cette naissance annoncée, est une naissance acceptée par Marie. Alors je termine en ramenant tout ça un petit peu à nous, qu'en est-il de nous ? Pas d'ange qui vient nous annoncer une naissance particulière, je ne pense pas, mais nous avons sans doute tous dans nos vies des choses qui ne sont pas toujours faciles à accepter, des choses où il est parfois difficile de trouver la cohérence entre ce que dit la parole de Dieu et nos vies et faire que tout ça fonctionne ensemble, des choses qui parfois nous paraissent incompréhensibles et que Dieu pourtant permet dans notre vie. Et j'aimerais simplement suggérer ici que Marie nous laisse un bel exemple de foi à imiter. Une foi simple et profonde, et la foi que Dieu nous demande n'est rien d'autre que celle-là. Ce n'est pas une foi compliquée que Dieu attend de nous, mais une foi simple et profonde à la fois. Une foi comme pour Marie qui a cru, alors même qu'elle ne comprenait pas tout. Elle ne pouvait pas tout comprendre. Même nous, nous ne pouvons pas tout comprendre avec le recul et avec l'ensemble de la révélation. Il y a des choses qui doivent être simplement acceptées par la foi. Elle a cru alors même qu'elle ne pouvait pas tout comprendre. Marie ne pouvait pas tout comprendre. Mais elle pouvait refuser, je le répète. Et elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a fait le choix de la confiance sur cette simple parole de l'ange. Et nous devons veiller à ne pas croire et à ne pas accepter seulement ce que nous comprenons dans la Bible. C'est une tentation qui peut exister. Il y a tout ce que nous comprenons, et puis les choses qui nous bousculent un peu, on laisse tout ça de côté. Et je crois que Dieu nous invite à lui faire confiance, même là où nous ne comprenons pas. Même quand le chemin dans nos vies s'est obscurci et qu'il n'y a pas d'explication. Même quand nous ne voyons pas le bout du tunnel, nous devons croire que Dieu est là et que la lumière viendra au bout du tunnel. Marie a simplement cru la parole de l'ange. C'est toute la beauté et toute la simplicité de la foi d'un enfant que l'Évangile nous invite à avoir et peut-être à demander à Dieu. Cette foi que nous devons mettre en œuvre dans nos vies, c'est la foi de Marie dans notre texte. Quelles que soient les circonstances de nos vies, Dieu voudrait que nous donnions foi à sa parole, que nous donnions foi à ses promesses en toutes circonstances, que nous puissions dire dans les beaux comme dans les mauvais jours, à l'instar de Marie, je suis ta servante, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon ta parole. Il y a des fois où les promesses de Dieu collent tellement bien dans nos vies, et là c'est facile de croire. Puis il y a des fois où ça ne colle pas. Et c'est là que nous devons peut-être nous rappeler ce texte de Marie. Nous sommes entrés depuis quelque temps dans cette période de l'Avent, un temps où nous nous préparons à ce jour de Noël, à repenser d'une manière particulière à la naissance de Jésus. Et d'une certaine manière, cette naissance de Jésus est encore annoncée aujourd'hui, par ce message et puis par tant d'autres messages aujourd'hui et dans les prochains jours sur la surface de la terre. Nous savons quel est l'écho que Marie a donné à l'annonce de cette naissance. La question pour nous est de savoir quel écho nous allons chacun donner à l'annonce de cette naissance. Est-ce qu'elle va trouver un écho dans notre cœur ? Puissions-nous recevoir et accepter la nouvelle de la naissance de Jésus avec la même foi simple et profonde de Marie. Puissions-nous vivre ce temps de Noël dans la compréhension de la signification de la naissance de Jésus. Une naissance miraculeuse, divine. On a vu tout ce que cela implique, et en particulier pour le salut. Une naissance acceptée. Que Dieu nous accorde la grâce d'être toujours de celles et de ceux qui se disent serviteurs, servantes, prêts, quel que soit le coût à payer. La honte, la disgrâce, elle existe aussi pour nous, peut-être pas parce que le Saint-Esprit, mais parce que nous nous affichons comme chrétiens, et que ça peut entraîner du rejet, de l'incompréhension, des moqueries, et que sais-je encore. Puissions-nous être prêts à accepter ce coup qu'il nous faut parfois subir dans nos vies si nous voulons suivre le Seigneur. Mais n'oublions pas que quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne aussi la grâce nécessaire pour pouvoir le vivre. Dieu donne ce qu'il ordonne, n'est-ce pas ? Et à Marie, il a donné la grâce. Il a donné la grâce, hein ? C'est dit clairement dans le texte. La grâce nécessaire pour être la mère de Jésus, la mère du Sauveur. Puissions-nous aussi accepter les grâces que Dieu veut nous donner pour être les serviteurs et les servantes de Dieu jour après jour. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.